Donc on vous avait bien dit qu'aujourd'hui on parlerait du travail enseignant avec trois entrées. Vous voyez qu'à la fois Françoise Lantôme dit « j'ai été chercher en dehors de la sociologie de nouveaux appuis et j'y ai trouvé de nouveaux développements pour mon travail ».
Merci beaucoup. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez développer donc la crise créative? Vous avez parlé d'un seul métier en crise, pas de crise de nerfs, pas de crise cardiaque, une crise créative. J'aimerais bien un développement, s'il vous plaît.
Donc, comme elle ne va pas le dire, elle a, dans les deux ouvrages qu'elle a co-rédigés, il y a des choses qui sont très intéressantes, et notamment, donc, il y a le premier ouvrage, c'est La souffrance des enseignants, et puis l'autre, c'est les enseignants de lycée professionnel face aux réformes. Et donc, elle a cité ses co-rédacteurs, mais il y a dans ces deux ouvrages, à la fois des paroles d'acteurs, des matériaux et des analyses. Tu me redis l'éditeur, ça ne me revient pas.
Alors le premier, ça s'intitule donc La souffrance des enseignants, une sociologie pragmatique du travail enseignant, et c'est édité au PUF, Presse Universitaire de France. Et le deuxième est édité par l'INRP.
Voilà, oui.
Voilà, il est là. Une sociologie pragmatique du travail enseignant. Et le second, c'est
les
enseignants face aux réformes, exemple des lycées professionnels ou quelque chose comme ça.
Voilà, ils sont dehors, juste à l'entrée. Ça va de soi, nous dit Isabelle, qui est très forte en livre. Alors, la crise.
Alors, la crise créative, oui. Alors là, on s'est appuyé pour développer cette idée de crise créative de travaux assez divers, à la fois du côté de Simmel ou de Schumpeter, qui est plus du côté de l'économie, pour revisiter la notion de crise, en fait. Car c'est vrai que la plupart du temps, quand on emploie le terme de crise, on pense à quelque chose de destructeur. Or, tant du côté d'une sociologie de la forme que du côté d'une sociologie de l'économie, il y a l'idée que c'est au cours des crises que se développe un certain nombre de potentialités, on pourrait dire, qui n'existeraient pas sans la crise. Alors, d'ailleurs, on peut prendre l'image biologique. Quand il y a un virus qui vous attaque, ça fait crise et l'organisme se mobilise pour trouver des solutions et tuer le virus. Et puis, éventuellement, d'ailleurs, on sait bien que face au virus, ça ne sert à rien de prendre des antibiotiques, par exemple. C'est vraiment la ressource propre de l'organisme qui, la plupart du temps, permet de s'en défaire. Et en même temps, d'en être transformé, parce qu'on n'est jamais tout à fait le même après, même si c'est à l'échelle des cellules. Donc on est parti de cette conception de la crise qui est plus dynamique, parce que ça faisait écho aussi à ce qu'on avait trouvé sur le terrain, à savoir que les enseignants sont extrêmement créatifs dans leur activité. Et cela fait partie de tout ce que j'appelle l'invisibilité du travail enseignant et qu'il serait bon de mieux rendre visible. C'est-à-dire que les enseignants sont en permanence confrontés à l'incertitude, à l'inattendu. Et face à l'incertitude et à l'inattendu, ils inventent des solutions. Ce sont des solutions micro-sociologiques dont certaines, ils n'ont même pas conscience, qu'ils le vivent tellement dans l'instant qu'il leur est difficile d'en parler. C'est seulement par des pratiques dont vous avez entendu parler tout à l'heure, d'autoconfrontation croisée ou des entretiens après une séquence d'observation, par exemple, qu'ils arrivent, qu'ils se disent « Ah mais oui, c'est vrai, j'ai fait ça », alors que dans le feu de l'action, souvent, ils ne s'en sont pas rendus compte. Mais ils sont créatifs aussi plus collectivement au plan local face aux nouvelles prescriptions. J'ai parlé tout à l'heure du travail de traduction qui était nécessaire pour passer d'une prescription nationale, voire internationale, à la classe et au travail quotidien de l'enseignant. Et on voit bien là que les enseignants s'emparent, pas forcément seul d'ailleurs, des fois avec l'aide d'un inspecteur, d'un formateur ou d'un directeur, un réseau de traduction se constitue, mais malheureusement souvent seul aussi ou seulement par petits groupes. Et il faut un énorme travail de traduction, justement, de ces injonctions institutionnelles. Et c'est là aussi où se manifeste cette créativité. Alors, nous avons utilisé un autre terme auquel, personnellement, je tiens beaucoup, et qui est pour moi le signe de cette créativité, c'est le terme de plasticité. Les enseignants démontrent une plasticité dans leur activité qui est à la fois le support de leur adaptabilité aux situations et qui est aussi ce qui peut faire leur grandeur. Quand je parlais tout à l'heure de fierté du métier qui était un peu perdue, mais il me semble qu'il y a là une ressource pour les enseignants, contrairement à l'image de rigidité qui est renvoyée souvent sur les enseignants. Nous avons rencontré, au contraire, beaucoup de plasticité. Et d'ailleurs, si ce n'était pas le cas, ça casserait bien plus souvent, s'il y avait vraiment la rigidité dont ils sont accusés. Donc, la plasticité des enseignants est à la fois mise à l'épreuve et stimulée par la situation de crise du métier dans lequel on est actuellement.
Je suis pas intervenu en fin de matinée avec les deux précédents, mais je trouve que la continuité des trois est tout à fait intéressante. Et j'aurais envie de poser la question, en tout cas pour nous qui sommes accompagnateurs, enseignants et accompagnateurs, la question du changement, quoi. Est-ce que l'on est peu ou prou des agents du changement, et on pourrait rentrer par différentes entrées, tu en as répertorié quelques-unes, mais ce matin on a bien vu le débat qu'il y a eu entre Roland Guagou et Frédéric Sojard, et je pense que là-dessus ils n'étaient pas tout à fait sur les mêmes positions, même s'ils ont esquivé un peu la controverse. Je pense que il y a une vraie question de qui change, qui fait changer, qui conduit le changement. Et dans ce que tu dis là sur la crise créative, il y a vraiment quelque chose de cela, quoi. Et est-ce que c'est l'injonction institutionnelle outillée de plein de choses, dont les évaluations, qui va faire changer malgré tout, malgré les enseignants, qui va les faire changer malgré eux? Est-ce que c'est la recherche qui, en inventant toutes les stratégies, toutes les subtilités de compréhension du fonctionnement de la classe, des élèves, qui va donner les clés du changement, ou est-ce que ce sont les enseignants? Alors, il pourrait y avoir l'illusion qu'ils le changent par eux-mêmes. On voit bien aussi comment ça peut circuler, mais en même temps il y a une vraie question, malgré ces circulations entre la prescription institutionnelle, la prescription de la recherche, la prescription y compris syndicale, tu en parlais, qui sont les opérateurs centraux du changement. Je trouve que on pense souvent au changement en grand et on voit rarement le changement en petit. Ce qui n'est pas faire injure à la transformation, quoi. Il peut y avoir des changements qui sont tout petits. Et l'exemple de Roland Guagou ce matin en proposant des outils, moi me fait écho à cette capacité qu'ont les enseignants de se saisir des outils et de les transformer pour agir dans leur situation. Il y a des toutes petites transformations qu'ils opèrent et qui permettent de mieux faire face. Le problème, c'est que ces petites transformations sont rarement discutées. Donc là, je reviens sur cette question. Enfin, pour finir, j'avais noté deux mots qui peuvent faire aussi lien avec ce que nous a proposé Frédéric Soja sur l'accompagnement des débutants et qui est aussi une préoccupation pour nous assez fréquente. C'est comment on peut faire le lien entre la construction du métier au sens j'avais noté la phylogénèse du métier, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais au niveau de la construction historique du métier, et en même temps de la construction individuelle du métier, si on pourrait parler d'ontogénèse du métier, quoi. Il y a quelque chose autour de la genèse du métier qui est partagé par la trajectoire de chacun, et notamment nous, quand on conduit des formations, qu'est-ce qu'on fait de cela, et en même temps, comment on fait comment on ressource ces possibilités de développement de chacun par le développement du métier collectif, quoi.
Ça me fait penser, moi, juste à une parole d'Yves Clos dans un texte que j'aime bien, qu'on pourrait se passer éventuellement, c'est entre résister au métier, pour reprendre la plasticité, hein, résister ou s'attaquer au métier. C'est-à-dire quand quelque chose se met à coincer, est-ce que la posture de résistance... c'est la posture qui permet de développer le métier, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas s'attaquer aussi aux limites du métier, donc collectivement, pour pouvoir le faire bouger et régler les questions qu'il a à régler au fur et à mesure.
Oui, ça évoquait plusieurs réflexions là, dans ce que vous disiez. Bon, je n'ai pas de solution type. Alors déjà, sur la question du changement, je pense qu'on n'interroge jamais assez la nature du changement attendu. Il y a une espèce de religion du changement dans nos sociétés. Or, la première attitude, et c'est peut-être la première attitude que peut nous apprendre la recherche, c'est avoir une attitude réflexive, critique, sur la nature du changement qui est proposé. Et déjà là, les enseignants ont cette contribution à la réflexion. Et cette réflexion sur la nature du changement, c'est bien un problème actuellement. On voit bien qu'il y a un décalage entre la nature du changement proposé et le sens que lui attribuent les uns ou les autres. Deuxième réflexion, c'est que vous vous posez la question des accompagnateurs. Et vous dites, faut-il ou qui doit conduire le changement, qui doit donner les clés, hein. Alors, à vrai dire, le changement n'a pas de serrure. Donc il n'y a pas besoin de clés, c'est déjà bien. Et ce n'est pas une voiture, il n'y a pas besoin de le conduire. Par contre, s'il n'y a pas besoin de le conduire, ou d'une sorte de deus ex machina qui le conduirait, il a besoin de traducteurs. Et moi, mon entrée, mais elle est tout à fait discutable, et c'est de partir de cette idée de traduction qui est nécessaire pour faire en sorte que des prescriptions qui sont forcément générales et hors contexte, c'est la caractéristique même des prescriptions, mais qui sont utiles, parce qu'elles sont aussi un point de repère pour travailler, que ces prescriptions, pour en faire quelque chose dans le concret de la classe, il faut tout ce travail de traduction. Et dans ce travail de traduction, il y a besoin, alors je dirais pas d'accompagnateur, mais il y a besoin de traducteur. Mais tout le monde est traducteur. Mais traducteur en fonction de sa posture. L'inspecteur va être un traducteur en fonction de son rôle d'inspecteur. Le formateur est traducteur aussi en tant que formateur. Le conseiller pédagogique, pareil. Et l'enseignant, lui aussi, fait ce travail de traduction. Alors qu'est-ce que ça veut dire traduire? Et là, je me réfère à ce qu'on appelle la sociologie de la traduction. Traduire, c'est reformuler la question qui nous est posée en fonction de contraintes propres au local et de ressources propres au local. Enfin, au local, ça peut être un local plus ou moins large, c'est tout à fait micro. En tous les cas, c'est un travail de réinterprétation, d'appropriation, qui passe toujours un peu par de la trahison, hein, traducteur, voilà, en italien, de traître. Puisque pour adapter ce qu'on nous dit de faire à l'environnement de travail, eh bien, on va devoir prendre en compte des éléments qui ne sont pas prévus par, par la prescription. L'important, c'est la mission, les finalités, les objectifs qui sont fixés. D'où l'importance que l'institution soit au clair sur ses finalités. Et c'est là où il y a un souci, sans doute. Jean-Marc Veller, qui est un sociologue du travail et qui n'a pas du tout travaillé sur les enseignants, a fait une enquête tout à fait intéressante sur l'association AIDE, l'association de lutte contre le sida. Et il a étudié particulièrement un centre de AIDE à Paris, à un moment donné où il y avait une crise comme ça, parce que le public de cette association était en train de se modifier. Et c'est au moment où on est passé d'une situation où le sida était associé à l'homosexualité à une situation où il y a eu des gens touchés par le VIH, beaucoup plus divers, et particulièrement des gens dans une grande précarité sociale. Et les membres de l'association se trouvaient en difficulté. Et ce que montre Jean-Marc Veller, et qui peut nous intéresser, à mon avis, c'est que la difficulté provenait d'une inadéquation entre les finalités de l'association, les objectifs et les outils qu'elle se donnait. Et on peut se poser la question de la cohérence en ce moment du changement, justement, par rapport à ces trois dimensions. Donc je pense qu'il y a des traducteurs qui sont absolument nécessaires, et ce que nous avons constaté dans la recherche sur les lycées professionnels face aux réformes, c'est que la difficulté qu'ont les enseignants provient en grande partie du manque de traducteurs, du fait que ce travail de traduction repose trop uniquement sur eux, finalement. Donc là, il y a la place à toutes les intermédiaires, les passeurs, les traducteurs qui existent et qui devraient être au contraire renforcés. Et dans ce travail de traduction, vous avez fait allusion aux outils, moi je dirais plutôt le rôle des objets. Nous avons aussi observé que les objets ont un rôle particulièrement important. Alors, cela tombe bien parce que ça rencontre à la fois des réflexions de la sociologie de la traduction et des réflexions de la sociologie fonctionnaliste de Durkheim. Durkheim disait que les objets, les lieux, c'est de la sociologie cristallisée. C'est du social cristallisé, exactement. Et la sociologie de la traduction met à équivalent les êtres animés et les êtres inanimés, en disant que le social se fabrique par des interactions entre ces différents êtres. Et on peut dire que dans ce que nous avons observé la même chose, c'est-à-dire que les enseignants utilisent beaucoup d'objets qui viennent d'ailleurs. Ces objets sont rarement des objets institutionnels. Par exemple, le bulletin officiel ne fait pas partie des objets très mobilisés par les enseignants. On le sait. Les objets produits par l'institution, qui sont rares, c'est peut-être là un problème d'ailleurs, sont peu mobilisés par les enseignants. Par contre, ils vont mobiliser des objets trouvés à droite, à gauche, sur tel site, dans telle association ou autre. Et surtout, ils en créent énormément. Telle fiche de consigne qui est utilisée, réutilisée, débattue, discutée, transformée, oubliée un moment, ressortie un autre. Et ces objets circulent. Ils circulent par Internet, ils circulent au niveau plus micro dans la salle des profs éventuellement, ils circulent par le biais des formations qui sont un lieu de circulation de ces objets. Et ces objets, si on les regarde comme des objets qui cristallisent du social, on se rend compte que ceux qui tiennent le coup, en quelque sorte, qui résistent aux interprétations diverses, qui résistent aux conflits d'interprétation, ce sont les objets qui correspondent à un accord qui a eu lieu à un moment donné, au sein d'un réseau social, on va dire, professionnel. Même s'il ne s'agit que de l'école ou du collège qui est en question. À un moment donné, il y a eu un accord pour faire telle fiche de consigne. Ensuite, cette fiche circule. On ne sait plus, on ne se rappelle plus quels ont été les débats qui ont présidé à l'élaboration de cette fiche. Et d'ailleurs, on ne veut surtout pas recommencer à les avoir. hein, parce que c'est quand même coûteux tous ces débats. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça fait des émotions. Bon. Donc on utilise l'outil. Mais l'outil, il n'est jamais utilisé à l'identique. Là aussi, il y a réinterprétation, traduction, adaptation. Et c'est comme ça que l'on peut voir des outils identiques utilisés dans des sens complètement opposés. Donc les objets ont leur rôle en tant que support de logique sociale qui peut être aussi utile pour des personnes qui sont dans ce rôle de traducteur dont je parlais tout à l'heure. Donc le lien entre la construction historique et le métier en train de se faire, à mon avis, il passe par ces traducteurs, il passe par ces objets qui devraient permettre de faire cette percolation, c'est Yves Clos qui utilise ce terme que je trouve juste, cette percolation entre cette énergie débordante qui est mobilisée localement dans les situations de classe ou autres, et puis on a l'impression d'une espèce d'un peu d'inertie du métier qui va son chemin en quelque sorte, mais justement son chemin devient très, très abrupt. Donc voilà, moi c'est plutôt la vision que j'aurais hein, sur la question du changement.
Il y a un métier en crise. Le métier d'enseignant est en crise, crise créative, crise de redéfinition, et en fait, il nécessiterait de le redéfinir. Il y a un autre métier qui est en crise, vous en parliez tout de suite, c'est le métier d'élève. Les élèves ne sont pas intéressés. Le rapport entre ces deux métiers, c'est que les enseignants, quand ça marche bien, les élèves sont intéressés finalement par quelque chose qui est obligatoire et pas forcément utile. Quand ça marche. Et là, ils sont face à quelque chose qui, de manière de plus en plus massive, ne les intéresse pas. Donc la source de la crise du métier d'enseignant, c'est bien que les élèves ne sont pas intéressés par les apprentissages qui leur sont obligatoires, qu'ils ont éventuellement choisis, mais qui finalement ne les intéressent plus. Donc la bonne réforme, finalement, la bonne réforme, ça serait celle qui s'appliquerait aux enseignants, pour leur permettre de travailler cette question-là, de redéfinir le métier pour que les élèves soient intéressés. Il y a une deuxième chose qui est absolument paradoxale, c'est que les enseignants sont bien jugés et s'estiment mal jugés. Et c'est quand même assez extraordinaire, ça. C'est ce que vous disiez tout de suite, là. Peut-être que ça vient du fait que le métier d'enseignant est un métier absolument significatif. C'est un métier normal. C'est un métier qui se réfère à des normes. Et finalement, c'est pas un métier où on résout des problèmes, mais c'est un métier où on s'adapte à des normes, à des référents. Et que c'est peut-être ça. C'est-à-dire que c'est des normes, c'est des choses... On va pouvoir savoir qu'on est dans des normes parce qu'il y a un inspecteur qui dira qu'on est dans des normes. Et c'est peut-être ça qui donne la fragilité du métier d'enseignant, c'est d'être un métier normal, entre guillemets. Et peut-être la redéfinition, ça consisterait à sortir, à faire que ce métier, ça soit plus un enseignement, ça soit plus un métier normal.
Deux choses. Quand tu disais, chaque niveau a à redécrire, à retransformer la prescription. Je voudrais juste témoigner de ça, c'est-à-dire quand on accompagne des formateurs, des conseillers pédagogiques, des inspecteurs, des responsables d'une institution à l'intérieur d'un rectorat, etc., on est toujours confronté au même problème. Agnès Van Zanten, qu'on verra demain, nous dit toujours chacun rebalance toujours sur le niveau inférieur la responsabilité de la mise en œuvre de la prescription. Et on s'aperçoit que quand on se met à travailler ça, par exemple, avec des corps d'inspection, les corps d'inspection, alors je vous cite un exemple tout bête, ils appellent les inspecteurs de l'académie de N, appellent l'INRP en disant « on a un problème avec l'accompagnement personnalisé en lycée professionnel. La première année, on a laissé les établissements faire. On s'est aperçu qu'il se passait pas grand-chose. Du coup, on s'est mis à en discuter entre nous. On s'est aperçu qu'on n'était pas d'accord entre nous. Donc on voudrait qu'il y ait quelqu'un de l'INRP qui vienne nous expliquer ce qu'il faut vraiment entendre dans le mot accompagnement personnalisé, pour qu'ensuite on puisse vraiment se mettre au boulot et aller, donner la bonne feuille de route à nos équipes. Et donc dans le travail qu'on mène avec eux, du coup, on s'aperçoit que le principal travail, c'est déjà d'engager la discussion, la controverse entre eux, sur finalement qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée d'accompagnement personnalisé. On redéroule la prescription, on regarde dans le détail, on voit les différentes manières de faire qu'ils connaissent très bien dans les établissements, et on s'aperçoit de tous les problèmes qui sont posés derrière, qui sont des problèmes d'apprentissage d'élèves, etc. Mais on voit bien, c'est illustration de ce que tu disais sur à chaque niveau, il faut réorganiser. Donc on pourrait le dire dans le collectif des inspecteurs, on pourrait le dire dans la ZEP, on pourrait le dire dans l'établissement, on pourrait le dire dans le collectif des profs de lettres de l'établissement, ou dans l'équipe du réseau, ou dans l'équipe des éducateurs, enfin à chaque fois il y a toujours cette comment la... ça se reformule, ça se réorganise. Et puis il y a une deuxième chose sur laquelle j'aimerais que tu dises un petit mot, c'est l'institution perd la mémoire, elle n'a pas la mémoire de ce qui a été fait avant, et on réinvente toujours la roue comme si il n'y avait personne qui était garant de ce qui a été fait avant.
Sur le premier point, la première intervention, ce que je trouve intéressant dans le fait que les enseignants sont de fait plutôt bien jugés et se sentent mal jugés, ça renvoie au fait qu'il ne faut pas confondre plainte et souffrance au travail. Il y a dans le milieu enseignant, et nous avons été confrontés à ça, une plainte énorme. Une plainte massive. Souvent je dis que quand on a fait cette enquête, on avait eu l'impression d'être face à une immense vague de plaintes, d'être complètement submergé par la plainte. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de cette plainte ? Donc on a essayé de creuser un peu nos matériaux pour comprendre quel était le sens de cette plainte. Alors la première remarque, c'est qu'il peut y avoir plainte sans souffrance au travail, et il peut y avoir souffrance au travail sans plainte. Donc déjà, ça permet de voir que les deux ne sont pas forcément associés. Ensuite, ce qu'on a remarqué, c'est que les jeunes, entre guillemets, enseignants, ceux qui arrivaient dans l'établissement, et particulièrement ceux qui démarraient dans le métier, au début n'étaient pas dans ce registre de la plainte. Au bout de quelques mois, ils l'étaient. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et finalement, on a identifié quelques fonctions de la plainte enseignante. Et ça va dans le sens de crise du métier d'ailleurs. Un métier qui en est réduit à donner de lui-même essentiellement la plainte, c'est qu'il y a un problème. Alors comme première fonction, on a vu que la plainte, ça avait comme fonction un peu comme... Il y a un auteur qui a travaillé sur les infirmières, une chercheuse qui s'appelle Pascale Molinier, et qui a montré comment la salle de repos des infirmières était l'occasion d'une espèce d'exutoire, de décharge, où on peut rire du pire. Et c'est parce qu'il y a cette salle de repos des infirmières, dans laquelle les infirmières passent leur temps à se plaindre et à rigoler du pire, qu'ensuite elles peuvent être dans l'empathie, dans l'accompagnement, dans l'attention aux patients. Donc là, c'est le premier point, parce que dans la salle des professeurs, il y avait vraiment une salle des plaintes, c'est que ça joue cette fonction de on vient dire ce qu'on ne s'autorise pas à dire, parce que c'est pas dans les règles du métier. Dans les règles du métier, un enseignant est bienveillant. Il n'est pas censé dire quelle bande de petits cons, c'est pas possible, j'en peux plus, ils me sortent par les yeux, bon, des choses qu'on entend dans la salle des professeurs. Hein. Donc ça, c'est la première fonction, une fonction de récupération d'énergie, d'exutoire. La deuxième fonction, et c'est en observant les plus jeunes enseignants que ça nous est venu, c'est que ça a une fonction de socialisation. Qui partage la plainte fait partie du groupe professionnel. Ça devient un marqueur, en quelque sorte, de reconnaissance entre soi. On est capable de se plaindre des mêmes choses, parce qu'on sait derrière ce qu'il y a. Donc ça aussi, cette fonction-là. Et puis il y a une troisième fonction qui me semble aussi importante, c'est une façon que je trouve maladroite et malheureuse, mais que tout de même c'est une façon de dire la dureté du métier, à l'extérieur cette fois-ci, hein, pas à usage interne, mais à usage externe, face à la difficulté à rendre visible le travail enseignant, on va par contre se plaindre. On n'arrive pas à rendre visible vraiment les difficultés du travail, mais on se plaint. Les deux ne sont pas la même chose. Donc c'est une façon un peu maladroite, je dis, de dire notre travail est difficile. Alors, sauf que ça n'a pas du tout l'effet attendu, parce que ayez la curiosité, si vous ne l'avez déjà eu, de regarder les forums ou les réactions de lecteurs dans des journaux nationaux quand il est question de questions d'enseignement. Mais c'est très très virulent ce qu'on lit sur les enseignants. Alors bien sûr, il y a des enseignants qui interviennent aussi pour défendre leur métier. Mais ce qui ressort beaucoup dans ce qui est virulent sur les enseignants, c'est que c'est un métier, c'est un travail où les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Mais c'est quoi ces enseignants qui ont jamais rien vu, qui savent à peine ce que c'est que de se lever tôt le matin, on a l'impression, et qui se plaignent, quoi. En gros, c'est la tonalité des choses. Donc la plainte... Les enseignants se retournent contre eux, parce qu'on les traite de géniards, de demi-salariés qui ne sont pas capables de faire face, alors que dans d'autres métiers, mon Dieu, c'est bien plus difficile, etc. Donc voilà, la première réaction, c'est la distinction pleine souffrance au travail qui me semble avoir en tête. La deuxième réflexion, c'est sûr, quand vous posez la question, quelle serait la bonne réforme? Et vous proposez le fait que de donner aux enseignants l'occasion, les moyens de réfléchir à fabriquer de l'intéressement. Alors bon, sur la notion de bonne réforme, je suis un peu dubitative, à vrai dire, parce que une réforme, elle n'est jamais bonne en soi, à vrai dire, mais c'est ce qu'en font les gens. Mais il est vrai que, par contre, que les organisations du travail soient conçues de façon à ce que les enseignants puissent avoir du temps pour délibérer, pour éventuellement s'empailler, débattre vigoureusement sur comment on va faire, comment s'y prendre pour faire telle ou telle chose, ça me semblerait une réforme clé. Mais on voit bien que ce n'est pas seulement de l'ordre de la réforme nationale, c'est aussi de l'organisation du travail local. Car on a vu dans notre enquête qu'il y avait des établissements où il y avait déjà des dispositifs qui permettaient aux enseignants d'avoir ce temps d'échange, ce temps d'interaction difficile. Les enseignants parfois rechignent aussi à ça, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est coûteux. C'est coûteux en remise en cause, c'est coûteux en... C'est pénible, quoi, de toujours discuter de ce qu'on va faire et de comment il faut le faire. Il y a des moments où on veut que le débat s'arrête, que voilà, on passe à l'action. Et puis, donc, entre passer son temps à débattre et puis intégrer le débat comme naturel, comme normal, comme faisant partie du travail, il y a sans doute une bonne zone à trouver. Alors, ça m'amène aux questions des normes. Alors, ce que nous avons observé, c'est que le travail de traduction dont je parlais, quand il s'inscrit dans la durée, qu'il prend en compte l'environnement avec son histoire aussi, parce que le local a aussi une histoire, cela se traduit par la fabrication de normes locales. Ces normes locales sont parfois en bonne cohérence avec les normes générales, mais pas toujours. Il peut y avoir des normes qui sont décalés des normes habituelles. Je vous donne un exemple. Dans les PPCP, en lycée professionnel, les projets pluridisciplinaires à caractère professionnel, il est prévu que les enseignants interviennent en doublette, par exemple. Bon, ben, dans certains établissements, c'est pas le cas. Il n'est pas prévu aussi dans les PPCP qu'il y ait une évaluation formelle. Certains établissements mettent en place une évaluation formelle. Dans certains établissements, le bon PPCP, donc il se crée une norme du bon PPCP. Dans certains établissements, le bon PPCP, c'est celui qui va accroître l'image et l'attractivité de l'établissement. Donc on va avoir des PPCP qui vont se traduire par des productions qui donneront lieu à des expositions, à des invitations, des élus, des parents, tout le tout pour accroître l'image de l'établissement. Tandis que dans d'autres, le but va être que le PPCP contribue à la réussite aux examens. Donc il va y avoir détournement, parfois même des heures consacrées au PPCP, qui vont être consacrées en fait au bachotage. Pour les examens. Donc voilà, on voit que les traductions sont diverses, aboutissent à des normes locales, et le problème, c'est leur articulation avec un cadre normatif national. comme vous le dites. L'éducation nationale, l'enseignement, c'est un travail, c'est un métier normal qui est lié à des normes. Alors, il me semble qu'une des difficultés actuellement, c'est que ce cadre normatif, il est extrêmement ambivalent. Il n'est pas toujours cohérent et il est ambivalent. Je vais prendre un exemple uniquement. Dans la dernière, dans la dernière circulaire de rentrée, qui était encore signée par M. Darcos, le précédent ministre de l'Éducation nationale, il était indiqué que les établissements doivent développer les services aux parents, doivent développer les services rendus aux parents. Donc ça veut dire qu'on est dans une logique de service. Or, traditionnellement, l'éducation nationale et les enseignants, s'ils sont autorisés à exercer leur métier, c'est qu'ils ont un mandat de la société. Un mandat que leur donne la société en leur disant enseigner telle ou telle chose, former nos jeunes générations pour les insérer professionnellement, en faire des citoyens, etc. Mais passer de la logique de mandat à la logique de service, ça transforme complètement le métier. Quand on est dans la logique du mandat, le cadre normatif général est le cadre normatif de l'institution et qui est intégré par tous les membres de l'institution. Et c'est en fonction de ce cadre normatif que les gens agissent. Quand on est dans la logique de service, le cadre normatif, il est à construire en même temps que la situation de service est à construire. Et ça, bon, la sociologie interactionniste l'a largement montré. Il y a eu des travaux sur d'autres métiers que l'enseignement, mais des métiers de relations humaines où il y avait des relations de service qui montrent à quel point le service est construit entre celui qui bénéficie du service et celui qui construit et celui qui offre le service. Donc on est dans la construction de l'intéressement, mais on est aussi dans une relation de service, comme on dit, qui met à niveau égal celui qui offre le service et celui qui bénéficie du service. On est donc dans un cadre normatif dans lequel il y a équivalence, égalité entre les deux membres, il y a négociation, il y a contrat, et on n'est plus dans une logique de mandat où on impose et on inculque une éducation à une partie de la population, et dans lesquelles, forcément, il n'y a pas égalité, ni entre les élèves et les parents et les enseignants. Ni entre les élèves et les enseignants, ni entre les parents et les enseignants. Donc, il me semble que la difficulté là, à laquelle sont confrontés les enseignants, c'est la double injonction. C'est qu'à la fois on est encore dans une logique de mandat, on est dans une institution qui a cette logique de mandat, et en même temps il y a une impulsion d'une logique de service qui va avoir des conséquences, notamment sur comment travailler avec les élèves. Quel va être le bon positionnement des enseignants dans cette relation de service, et pareil avec les parents. Et la question de la clarté de la mission donnée aux enseignants, elle ne relève pas seulement des enseignants. C'est une question à la fois politique et sociale, et qui, on voit bien que ça relève d'un autre niveau que du seul problème professionnel. Pour le moment, les enseignants se débattent face à des injonctions qui ne sont pas toujours cohérentes et qui engagent, on le voit bien, à toute la conception du métier et la mission qui est la leur. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à vos interrogations. Ah oui, sur la mémoire. Ah, sur la mémoire, je n'ai pas grand-chose à dire, sauf que les établissements n'en ont pas. Il y a un test qu'on fait, je vous avoue, quand on fait une enquête dans un établissement, on commence toujours par aller voir le chef d'établissement. Et en collège et lycée, il y a une pratique très étonnante selon laquelle le chef d'établissement part avec ses archives. Donc celui qui arrive n'a que les documents très officiels. Et quand on demande, c'est une de nos questions, on demande au chef d'établissement... vous avez un projet d'établissement, et il y a toujours ce geste, oui, et il montre l'armoire. Il est dans une armoire. Bon, alors après, des fois, le développement est un peu moins caricatural, mais cela montre qu'il n'y a pas de mémoire institutionnelle même. C'est très surprenant. Et la mémoire, elle est orale. On est dans la savane. La mémoire est orale. Elle se passe. Et en général, quand on fait une enquête, on repère dans l'établissement les enseignants les plus anciens. Parce qu'on sait que c'est là que se trouve la mémoire. Elle ne se trouve pas dans le chef d'établissement, il est là depuis pas longtemps. Vu l'obligation de mobilité qui est faite au chef d'établissement dans le secondaire, c'est pas eux qui sont détenteurs de la mémoire. Donc nous recherchons toujours des enseignants qui sont là depuis longtemps, qui eux vont nous raconter l'établissement. Alors bien sûr, on en prend plusieurs pour qu'on n'ait pas le même récit et tout ça, mais la mémoire est portée par des individus. Alors autre chose aussi qui est symptomatique sur la mémoire, c'est que les équipes n'ont pas la mémoire de leur pratique professionnelle. Je parlais tout à l'heure des fiches de consignes, des objets qui sont travaillés et retravaillés, mais les enseignants, quand on leur demande, parce qu'on en aurait bien besoin pour nos enquêtes, « Avez-vous une version originale de votre fiche de consignes ?» Ben non, ils l'ont jamais. C'est exceptionnel quand ils l'ont. Si elle date de plus d'un an, non, c'est fini. Ça aussi, c'est une caractéristique d'un métier qui est très créatif. C'est que le nouveau recouvre l'ancien très vite. Voilà, c'est tout ce que je peux dire.
Pour les collègues du premier degré, chacun sait que la mémoire, c'est la secrétaire de circonscription. Et la plus grande catastrophe qui peut arriver, c'est lorsque la secrétaire de circonscription change. Et là, il y a 2 ou 3 ans, pour arriver à dire qui travaille où, etc. Sur peut-être une insiste, ça me fait penser sur la question générale des modifications de la relation, logique de mandat, logique de service. Je vous invite à regarder de près Conditions de l'éducation de Marcel Gauchier, qui est un philosophe qui dit des choses assez intéressantes sur ces questions-là. Et après la lecture de ce genre d'ouvrage, on se sent un peu moins seul, en disant ah oui, c'est pas que moi non plus.
Alors, sur la mémoire orale des établissements, je suis en partie d'accord avec vous. Effectivement, en tant que sociologue, quand vous arrivez dans l'établissement, vous allez vers les équipes pour leur demander un petit peu comment ça s'est passé. Néanmoins, sur le point de vue administratif, je dirais qu'il y a un ensemble de documents qui accompagne cette mise en mémoire dans l'établissement et en dehors de l'établissement. Et qu'il appartient à tout chef d'établissement, quand il arrive, de s'inscrire dans cette mémoire de l'établissement et une mémoire administrative où, effectivement, un certain nombre d'anecdotes ont pu disparaître à travers le fait que le chef d'établissement peut partir avec un certain nombre.
Ce sont plus que voilà. Des anecdotes qui manquent. Oui, mais en fait, c'est peut-être la différence entre justement la mémoire du disque dur et la mémoire vive. C'est...
Dans le même sens que monsieur, mais avec une anecdote par contre. J'ai donc déposé aux écoles, une vingtaine d'écoles, ce qu'on appelle une étude de cas, de mise en œuvre dans leur milieu, de la politique que je charge d'évaluer, que mon équipe a charge d'évaluer. Et la première réaction des écoles, elle dit, c'est très intéressant de passer, mais est-ce qu'on pourrait parler de l'actuel? Est-ce qu'on peut vous parler de ce qu'on veut faire? Si oui, mais j'ai quand même travaillé pendant 4 ans pour recomposer vos traces. J'aimerais que vous me dites si c'est le portrait est fidèle. Ils disent oui, c'est l'est. On continue, on veut te parler de demain. Alors, je suis un peu choqué. Bon, en même temps, j'ai accepté la situation. Donc, je dépose le rapport au ministère. Voilà ce qui s'est déroulé dans les écoles. Dans les 5 premières années, le ministère me regarde en disant c'est intéressant, mais sinon, qu'est-ce qu'on peut faire demain? Et là, je m'aperçois que dans le ministère, comme dans les écoles, le personnel avait changé, les idées avaient changé, les injonctions avaient changé. Peut-être juste pour dire que oui, dans les écoles, il y a absence de mémoire, mais il n'y a pas que là qu'il y a absence de mémoire.
Je ne sais pas s'il y a des sociologues des sociologues qui travaillent aussi sur d'autres objets qui pourraient être complémentaires. Vous nous avez dit à un moment donné, la population enseignante s'est modifiée en tant que profession, le recrutement et ainsi de suite, il y a eu des modifications. Vous nous avez parlé aussi de modifications, par exemple vous avez employé à un moment donné le terme de, c'était managérial je crois, l'équivalent dans l'entreprise c'est le management. Hein. Vous avez parlé de projet. Dans l'entreprise, dans le système actuel, c'est le management de projet. Hein, ce sont des nouveaux métiers. On a des gens maintenant qui ont des masters de management de projet dans les entreprises, qui font que ça à longueur de journée. Et alors, je voulais l'articuler à autre chose, parce que j'ai l'impression que quand même, c'est une irruption d'une conception et de l'organisation du travail qui vient d'un autre monde, en tout cas. Hein, le management et le projet. Et parallèlement, je suis un peu confus, hein, mais j'essaie d'articuler autre chose. Est-ce qu'on s'intéresse, ou est-ce que vous êtes intéressé, ou est-ce qu'il y a des gens dans la sociologie qui s'intéressent à comment, au sein du milieu enseignant, le débat, vous avez parlé de redéfinition, donc de débat sur les missions, les finalités, qu'est-ce que c'est que l'école, à ce qui était des espaces de débat, à un moment donné, il faudra encore le vérifier, mais j'ai souvenir de l'ICEM, l'Institut coopératif, hein, l'école liée à Freinet. J'ai souvenir, il y a très longtemps, c'était au début du XXe siècle, d'un certain nombre de mouvements par rapport à l'école libertaire et ainsi de suite. J'ai souvenir du... Tiens, on a eu quelqu'un au premier stage du GFEN. Hein. Je crois qu'il appartenait au GFEN, notre intervenant, non ? Toujours. Oui, non, mais je me demandais si les GFN existaient encore. Voilà, je faisais une boutade. Non, mais ce que je veux dire, vous voyez, ces espaces-là, qui étaient des espaces, il me semble, à une époque, de travail sur les finalités de l'école, et en même temps de débats qui s'affrontaient aussi avec le politique, et qui n'étaient pas des espaces syndicaux, en termes de défense des intérêts matériels, moraux, et ainsi de suite, mais des espaces de débat et des espaces de proposition d'école alternative ou de transformation de pans de l'école. Est-ce qu'en tant que sociologue, vous regardez ça? Est-ce que vous voyez des modifications, des changements? Est-ce qu'il y a des liens entre tout ça?
Alors, sur la question du management par projet, il y a le travail de Boltanski et Capello sur le nouvel esprit du capitalisme, qui sont deux sociologues, et qui ont bien montré comment il y avait eu une récupération de ce qu'ils appellent la critique artiste, et qu'ils différencient de la critique sociale, une récupération par le management de cette critique artiste. C'est-à-dire une critique et qui a été beaucoup portée, notamment par le milieu enseignant. Une critique qui portait sur des organisations trop rigides et dans le milieu du travail industriel qui portait sur le taylorisme. Et c'était au nom de la créativité, de la liberté, de l'individu, d'une meilleure reconnaissance de ce que les individus mettent au travail aussi. Donc, et comment cette critique artiste, ce qu'ils appellent la critique artiste, a été récupérée par le nouvel esprit du capitalisme et s'est traduite par ce management par projet. Donc c'est vrai que ça vient pas du secteur éducatif, pour partie, et pour partie ça vient du secteur éducatif. Parce que l'idée de projet éducatif, il est quand même très ancien, et notamment tous les courants d'éducation nouvelle ont été les promoteurs de cette idée de projet. Et je pense que le malaise provient aussi de ça. C'est que finalement, c'est comme les compétences. Les compétences ont été utilisées pendant longtemps par des associations éducatives, on va dire, pour défendre un mode d'enseignement qui prenne mieux en compte l'élève, tout ça, qui soit moins centré uniquement sur les savoirs. Et maintenant, on voit comment, entre la logique de projet et une logique de compétences, finalement, il y a une redéfinition de l'école, mais sans le dire vraiment, et qui se pose moins la question de l'égalité, mais qui se pose plus la question de l'employabilité. Et la récupération de ces notions de projet, de compétences, mais dans une perspective complètement différente, je pense, met mal à l'aise aussi un certain nombre de ces associations dont vous avez parlé. Et elles qui étaient porteuses à la fois de nouvelles conceptions de l'enseignement et qui ont été porteuses de cette critique artiste aussi, elles se trouvent un peu prises de court. Et il s'agit actuellement, et c'est ce qu'on essaye très modestement on essaye d'y contribuer, de construire une critique du nouveau modèle qui est en cours, de ce nouveau modèle de management par projet, non pas pour dire que tout est à jeter, mais pour essayer de mettre en valeur les enjeux de ce modèle et les perspectives qui sont les siennes. Dans ce nouveau modèle, C'est lié à la deuxième question que vous posez, la question des espaces de débat. Dans ce nouveau modèle, ce qui compte, c'est l'individu. Il y a une gestion par objectif, il y a des évaluations individuelles, des assignations d'objectifs individuels, des performances individuelles. Et on en voit un exemple aux États-Unis où les enseignants sont évalués en fonction des résultats de leurs élèves. Avec, tiens, je vous signale une enquête tout à fait passionnante qui a eu lieu en Californie et qui montre que dans une école, c'est une école un peu, comme on dirait, en éducation prioritaire. Et cette école a eu des aides importantes pour, avec la condition, l'objectif qui était assigné à l'école, donc d'améliorer les résultats des élèves. Et en l'espace de quelques années, cette école a amélioré de façon notable ses résultats. Donc, alors que les enseignants étaient évalués en fonction de leurs résultats et qu'ils avaient que des résultats des élèves, et donc ils avaient des primes, des augmentations, des améliorations de leur situation, ils étaient titularisés ou pas en fonction de ça. Et puis il y a des sociologues qui ont toujours un mauvais esprit, qui sont allés dans l'école et qui s'y sont installés et qui sont restés là-bas pendant assez longtemps. Pour comprendre que lorsqu'il y avait les évaluations à partir de standards, les élèves les plus en difficulté étaient envoyés dans une salle à côté. D'une part, et d'autre part, que tout l'enseignement s'était réduit à préparer les tests. Donc on voit bien là qu'il y a une forme de gestion de l'éducation centrée sur l'individu élève, sur l'individu enseignant, qui n'est pas favorable au collectif. Donc toutes les associations qui étaient fondées plutôt sur cet esprit de collectif sont aussi en difficulté. Et quand j'ai dit tout à l'heure, pendant longtemps, la sociologie ne s'est pas intéressée au travail enseignant, mais il y en avait d'autres qui s'y intéressaient, c'était les associations d'éducation nouvelle particulièrement. Alors que maintenant, on peut dire que la sociologie s'y intéresse plus, mais les associations d'éducation nouvelle sont affaiblies.
Ceci dit, je pense que la part des associations de l'éducation nouvelle dans... les enseignants en général a toujours été assez faible. Par contre, il y avait une chose qui était vraie, j'en parlais il y a pas longtemps avec un collègue qui est en retraite maintenant, avec qui j'ai fait un tour d'école là, il y a quelques jours, et il me racontait comment à la réunion syndicale qui avait lieu 3 fois par an, il y avait non seulement le délégué syndical, mais les syndiqués et les non-syndiqués qui venaient à la réunion de secteur parce que c'était là le lieu où on discutait du métier, je sais pas, mais en tout cas où on discutait. Juste 2 choses. Alors, Françoise est trop modeste pour signaler une initiative dont elle a été co-organisatrice. Dans cette salle a eu lieu il y a quelques mois un colloque sur le socle commun. Les résultats, enfin les enregistrements, etc., sont disponibles sur le site. Ça doit être socle commun, quelque
socle
chose comme ça.
Socle commun en un seul mot. Hein? .fr.
Et donc vous avez les liens vers les interventions. Et dans ce colloque qui était très intéressant, ont été discutées ces questions-là, c'est-à-dire comment aujourd'hui, entre la logique des innovateurs et la logique des libéraux, va se croiser, et donc qui justifie aussi un certain nombre de débats qui peuvent être apparemment étonnant entre les pédagogues et les républicains, les uns accusant les autres de faire le lit de l'école. Et là encore, il y a des logiques qui sont à aller chercher et à comprendre, parce qu'un certain nombre de défenseurs des idées de type républicaine ne sont pas que des réactionnaires, ce sont des gens qui réinterpellent un certain nombre de pédagogues en disant « mais est-ce que en faisant ce jeu-là ?» Et il y a eu un débat à cette tribune entre Jean-Michel Zakharchouk, qui est un ardent propagandiste des compétences, et puis un ex-syndicaliste, Denis Paget, qui valait son pesant de cacahuètes, parce que voilà, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Deuxième référence à citer, dans le bouquin qui a été coordonné sous l'égide de l'INRP avec le travail de Franji, Rochex, etc., il parle des 3 âges de l'éducation prioritaire. Et vous retrouverez dans cet ouvrage ce dont Françoise nous parle, c'est-à-dire ce glissement de l'éducation prioritaire à l'égalité des chances. C'est-à-dire que une fois qu'on s'est dit que décidément il semblait difficile de réduire les inégalités sociales, alors il s'agissait de les accompagner. Et quelle que soit la vision qu'on ait, enfin la position politique qu'on ait par rapport à cela, en tant qu'acteur de l'éducation prioritaire, c'est sans doute une clé de lecture qui est très intéressante. Dans XYZ, on a fait une toute petite synthèse sur deux pages, mais la lecture de ça vaut son pesant d'or parce que il redécortique ça dans différents systèmes éducatifs. Européen en particulier, et donc c'est assez intéressant de voir les mouvements qui se produisent.